Chapitre 21. Dernier chapitre qui contient l'épilogue de cette histoire et dans lequel le dernier mot reste à Mr. John Pross, juge à Weston. Leur curiosité satisfaite, la foule des curieux n'avait plus qu'à partir. Satisfaite, ce n'est pas sûr. Ce dénouement valait-il les fatigues et les frais d'un pareil voyage ? Avoir aperçu le météore sans pouvoir l'approcher à moins de 400 mètres, c'était un maigre résultat. Il fallait bien s'en contenter, cependant. Pouvait-il espérer, du moins, prendre un jour leur revanche ? Un second bolide d'or reparaîtrait-il jamais sur notre horizon ? Non. Une aventure de ce genre n'arrive pas deux fois. Sans doute, il peut exister d'autres astres d'or flottant dans l'espace, mais si faible est la chance qu'ils soient retenus dans le cercle d'attraction terrestre, qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. C'est heureux, en somme. 6 trillions d'or jetés dans la circulation déprécieraient outre mesure ce métal vil pour les uns, ceux qui n'en ont pas, mais si précieux au dire de tous les autres. On ne devait donc pas regretter la perte de ce bolide qui, non content de bouleverser le marché financier du monde, eût peut-être déchaîné la guerre sur toute la surface de la Terre. Cependant, ce dénouement, les intéressés avaient bien le droit de le considérer comme une déception. Avec quel chagrin Mr. Dean Forsyth et Mr. Sidney Huddleston allèrent contempler la place où leur bolide avait fait explosion. Il était dur de revenir sans rien rapporter de cet or céleste. Pas même de quoi se fabriquer une épingle de cravate ou un bouton de manchette. Pas un seul grain qu'ils eussent conservé à titre de souvenir en admettant que Mr. de Schnack ne l'eût point réclamé pour son pays. Dans leur commune douleur, les deux rivaux avaient perdu jusqu'au souvenir de leur passagère rivalité. Pouvait-il en être autrement ? Était-il possible que le docteur Huddleston tînt rigueur à qui avait si généreusement bravé la mort pour le sauver ? Et d'un autre côté, n'est-il pas humain que l'on soit tout dévoué à celui pour qui l'on faillit mourir ? La disparition du bolide eût achevé au besoin la réconciliation. À quoi bon se disputer le nom d'un météore qui n'existait plus ? Pensaient-ils à cela, les deux anciens adversaires ? Avaient-ils conscience du néant de leur générosité tardive, tandis qu'ils faisaient assaut de désintéressement en se promenant bras dessus, bras dessous, dans le premier quartier de la lune de miel d'une amitié remise à neuf ? C'est un bien grand malheur, disait le docteur Huddleston, que la perte du bolide Forsyth. Du bolide Huddleston, rectifiait Mr. Dean Forsyth. Il était à vous, cher ami, bien à vous. Nullement, protestait le docteur. Votre observation, cher ami, avait précédé la mienne. Elle l'avait suivie, cher ami. Que non pas ! Le manque de précision de ma lettre à l'observatoire de Cincinnati en serait au besoin la preuve. Au lieu de dire, comme vous, de telle heure à telle heure, j'ai dit entre telle heure et telle heure. C'est bien différent. Il n'en voulait pas démordre, l'excellent docteur. Mais Mr. Dean Forsyth n'en démordait pas non plus. De là, nouvelle discussion. Celle-ci, heureusement inoffensive. Poussé à un tel point, ce revirement touchant avait aussi quelque chose de comique. Quelqu'un qui ne pensait pas à en rire, cependant, c'était Francis Gordon, redevenu officiellement le fiancé de sa chère Jenny. Les deux jeunes gens profitaient de leur mieux, après tant d'orages, du retour du beau temps et rattrapaient consciencieusement les heures perdues. Les navires de guerre et les paquebots mouillés au large d'Upernivik levèrent l'ancre dans la matinée du 4 septembre, en route pour des latitudes plus méridionales. De tous les curieux qui avaient donné pendant quelques jours tant d'animation à cette île des régions arctiques, il ne resta que M. Robert Lecœur et son pseudo-neveu, obligés d'attendre le retour de l'Atlantique. Le yacht ne revint que le lendemain. M. Lecœur et Zéphirin Xerdal embarquèrent aussitôt. Ils en avaient assez de ce séjour supplémentaire de 24 heures dans l'île d'Upernivik. Leur cabane de planches ayant été détruite, en effet, par le raz de marée consécutif à l'explosion du bolide, ils avaient dû passer la nuit en plein air, dans les plus déplorables conditions. La mer ne s'était pas contentée de raser leur maison, elle les avait en même temps trempés jusqu'aux os. Mal séchés par le pâle soleil de ces contrées polaires, ils ne possédaient même plus une couverture pour se défendre du froid pendant les quelques heures d'obscurité. Tout avait péri dans le désastre, jusqu'au moindre objet de campement, jusqu'à la valise et jusqu'aux instruments de Zéphirin Xerdal. Défunte la fidèle lunette avec laquelle il avait tant de fois observé le météore. Défunte également la machine qui avait attiré ce météore sur la Terre avant de le précipiter au fond des eaux. Monsieur Lecœur ne pouvait se consoler de la destruction d'un si merveilleux appareil. Xerdal, par contre, ne faisait qu'en rire. Puisqu'il avait fabriqué une machine, Rien ne l'empêcherait d'en fabriquer une autre plus puissante et meilleure encore. Assurément, il l'aurait pu, cela n'est pas douteux. Malheureusement, il n'y pensa jamais. Son parrain le pressa en vain de s'atteler à ce travail. Il remit sans cesse au lendemain, jusqu'au jour où, parvenu à un âge avancé, il emporta son secret dans la tombe. Il faut donc s'y résigner, cette machine prodigieuse est à jamais perdue pour l'humanité, et son principe demeurera ignoré tant qu'un nouveau Zéphyrin Xerdal n'apparaîtra pas sur la Terre. En somme, ce dernier revenait du Groenland plus pauvre qu'il n'était parti. Sans compter ses instruments et sa riche garde-robe, il y laissait un vaste terrain d'autant plus difficile à revendre que la majeure partie de cette propriété était située sous la mer. Par contre, que de millions avait moissonné son parrain en cours de ce voyage. Ces millions, on les trouva au retour rue de Rouault, et telle fut l'origine de la fabuleuse fortune qui devait faire de la banque Lecœur l'égal des plus puissants établissements financiers. Zéphyrin Xerdal ne fut pas étranger, il est vrai, à l'accroissement de cette puissance colossale. Monsieur Lecœur, qui savait maintenant de quoi il était capable, le mit largement à contribution. Toutes les inventions sorties de ce cerveau génial, la banque les exploita au point de vue pratique. Elle n'eut pas à s'en plaindre. À défaut de celui du ciel, elle draina ainsi dans ses coffres une notable partie de l'or de la terre. Certes, Monsieur Lecœur n'était pas un Shylock. De cette fortune qui était son œuvre, Zéphyrin Xerdal aurait pu prendre sa part, et la plus grosse part si tel avait été son désir. Mais Xerdal, quand on entamait ce chapitre, vous regardait d'une manière si stupide qu'on préférait ne pas insister. De l'argent, de l'or, qu'en aurait-il fait ? Toucher à époque irrégulière les petites sommes suffisantes à ses modestes besoins, cela lui convenait parfaitement. Jusqu'à la fin de sa vie, il continua à venir pédestrement voir dans ce but son oncle et banquier. Et jamais il ne consentit ni à quitter son 6e étage de la rue Cassette, ni à se séparer de la veuve Thibault, ancienne bouchère, qui fut jusqu'au bout sa bavarde servante. 7 jours après l'avis que M. Lecœur en avait donné à son correspondant de Paris, la perte définitive du bolide avait été connue du monde entier. C'est le croiseur français qui, en revenant d'Upernivik, en transmit la nouvelle au premier poste sémaphorique d'où elle se répandit avec une rapidité extraordinaire dans tout l'univers. Si l'émotion fut grande, ainsi qu'on peut le supposer, elle se calma d'elle-même assez rapidement. On se trouvait devant un fait accompli, et le mieux était de n'y plus songer. En peu de temps, les humains furent repris par leurs soucis personnels et cessèrent de penser aux messagers célestes qui avaient eu cette fin déplorable, on pourrait même dire un peu ridicule. On n'en parlait déjà plus quand le Mozick jeta l'ancre le 18 septembre dans le port de Charleston. Outre ses passagers primitifs, le Mozick débarquait au retour une passagère qu'il n'avait pas embarquée à l'aller. Cette passagère n'était autre que Mrs. Arcadia Walker, qui, désireuse de manifester plus longtemps sa reconnaissance à son ancien mari, s'était empressée de s'installer dans la cabine laissée vacante par Mr. de Schnack. De la Caroline du Sud à la Virginie, la distance n'est pas considérable, et d'ailleurs, les railroads ne manquent point aux États-Unis. Dès le lendemain, 19 septembre, Mr. Dean Forsyth, Francis et Omicron d'une part, Mr. Sidney Huddleston et sa fille de l'autre, étaient de retour, les premiers à la tour d'Elizabeth Street, les seconds au donjon de Murray Street. On les y attendait avec impatience. Mrs. Huddleston et sa fille Lou se trouvaient à la gare de Weston, ainsi que l'estimable Mitz, lorsque le train de Charleston déposa les voyageurs. Et vraiment, ceux-ci ne purent qu'être très touchés de l'accueil qui leur fut fait. Francis Gordon embrassa sa future belle-mère, et Mr. Dean Forsyth serra cordialement la main de Mrs. Huddleston comme si rien ne s'était passé. Aucune allusion n'aurait même été faite au jour pénible si Miss Lou, toujours un peu inquiète, n'avait voulu en avoir le cœur net. « Enfin, c'est fini, n'est-ce pas ? » s'écria-t-elle en se jetant au cou de Mr. Forsyth. Oui, c'était fini, et bien fini. La preuve en est que, le 30 septembre, les cloches de St. Andrew répandirent à toute volée leurs sonores ondulations sur la cité virginienne. C'est devant une brillante assemblée qui comprenait les parents, les amis des deux familles et les notabilités de la ville que le révérend Hogarth célébra le mariage de Francis Gordon et de Jenny Huddleston, parvenu heureusement au port après tant de traverses et de vicissitudes. Qu'on n'en doute pas, Miss Lou était présente à la cérémonie, à titre de demoiselle d'honneur, toute charmante avec sa belle robe prête depuis 4 mois. Et de même, Mitz était là, riant et pleurant à la fois du bonheur de son fieu. Jamais elle n'avait été si émute, affirmait-elle à qui voulait l'entendre. Presque à la même heure, un autre mariage s'accomplissait ailleurs avec moins de pompe. Cette fois, ce ne fut ni à cheval, ni à pied, ni en ballon que Mr. Seth Stanford et Mrs. Arcadia Walker allèrent chez le juge John Pross. Non. C'est assis l'un près de l'autre dans une confortable voiture qu'ils s'y rendirent, et c'est au bras l'un de l'autre qu'ils pénétrèrent pour la première fois dans sa maison, afin de lui présenter, dans des conditions moins fantaisistes, leurs papiers bien en règle. Le magistrat remplit son office en remariant les deux anciens époux séparés par un divorce de quelques semaines, puis il s'inclina galamment devant eux. « Merci, Mr. Pross, » dit Mrs. Stanford. « Et adieu, » ajouta Mr. Seth Stanford. « Mr. et Mrs. Stanford, adieu, » répondit Mr. John Pross qui retourna incontinent soigner les fleurs de son jardin. Mais un scrupule troublait le digne philosophe. Au troisième arrosoir, sa main inactive cessa de répandre une pluie bienfaisante sur les géraniums altérés. « Adieu, » murmurait-il en s'arrêtant en pensif au milieu de l'allée. « J'aurais mieux fait, peut-être, de leur dire au revoir. »